Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 1h du matin en France. Si vous nous rejoignez dans l'after, la nuit de l'after continue jusqu'à 5h, bien sûr. Il est 19h ici dans le studio new-yorkais de l'after foot. Julien Laurence est là. Daniel Riolo est là. Kevin Diaz également. Et on a un match qui démarre à l'instant.
Bien sûr, le match de la journée.
Entre le Panama et la Croatie. Valentin Jamin suit ce match qui se déroule à Toronto. Valentin, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. 40 secondes de jeu, ça vient de partir et 0-0 entre la Croatie et le Panama. La Croatie qui a le ballon depuis le début de la partie. Match important hein, puisque le perdant éventuel de cette rencontre sera éliminé de la Coupe du Monde ce soir, puisque le Panama avait perdu à la dernière minute face au Ghana lors de la première journée et que la Croatie s'était inclinée 4-2 face à l'Angleterre. Deux changements dans le 11 croate, Kovacic entre au milieu de terrain et Pongracic en défense, et surtout c'est la 200e sélection du grand Luka Modric, le capitaine, qui est encore là à 40 ans. Et il y a un seul changement du côté du Panama, c'est l'avance entre un premier centre justement de la droite pour les Croates, la tête au premier poteau de Luka Modric qui va passer au-dessus de la cage de Mosquera. Donc l'avance centre du
Panama. Avant centre du Panama, obligatoirement Julio César Deli Valdés.
Il est là, d'ailleurs, il est consultant là pour la télé panaméenne. Je l'ai vu partout et je l'ai vu au match de Ghana Panama. Il était encore.
Ils n'ont pas eu beaucoup de vedettes. Hein.
Ah bah c'est vrai aussi.
Il y avait lui et Oliveira. Hein.
C'est sûr, c'est sûr.
Et là, la star, c'est Murillo, bien entendu, l'ancien Marseillais, qui est sur le côté droit.
Oui, si c'est lui la star, oui, forcément.
Ouais, oui. Sinon, ça joue un petit peu en Espagne, en Autriche. Il y en a qui jouent au Mexique, hein, quand même. Juárez pour l'attaquant qui s'appelle José Luis Rodríguez.
Donc, il est pas mal. Panama hein. Un bon petit pied gauche. Rodríguez, tu verras, Valentin. Un bon petit pied gauche, rapide et tout. C'est pas mal. Et puis, les deux milieux de terrain aussi, notamment Harvey et puis l'autre capitaine aussi. Ça a un peu de ballon.
Ouais. Arsenas qui joue au Mexique également. Le Panama qui n'a jamais pris de points en Coupe du Monde, c'est sa deuxième participation. Donc voilà, même un nul serait historique entre guillemets pour les Panaméens. Mais il faut gagner pour une des deux équipes parce que derrière le Ghana et l'Angleterre pour le moment sont à 4 points 0-0. 2 minutes de jeu, la première possession panaméenne sous le soleil de Toronto.
Panama, tu es allé au Panama, Sylvain ?
Oui, j'allais vous dire, destination de vacances totalement sous-côté. C'est exceptionnel, le Panama.
Mais difficile d'accès.
Exceptionnel. Il y a des plages somptueuses.
Ah oui ?
C'est pas très cher.
Mais c'est difficile.
Panama City, c'est très développé. Tu peux aller visiter le canal en plus. Tu peux te balader sur le canal de Panama.
Mais t'y vas, il faut passer par les US, faire une escale et y aller après. Il y a pas de vol direct.
Non,
il y a
un vol direct depuis Madrid, depuis l'Espagne.
Ah, depuis Madrid.
Oui. Tu sais, les Espagnols, ils desservent tous les pays latino-américains.
Oui,
c'est un peu leur backyard, comme dirait.
Et grosse plage, de très belles plages.
Ah, magnifique. Plage somptueuse.
Ouais, j'en doutais pas. Voilà. J'en doutais pas.
Panama.
Panama.
Pas mal de gens qui veulent se planquer, qui vont au Panama d'ailleurs.
Aussi, ouais. Ah oui. Oui. Même pour des comptes en banque, c'est pas mal. Ouais, aussi,
voilà. Si t'es dans les petits papiers du Panama, c'est que t'as du blé.
Des fois sur la
plage, Gilbert,
le problème aussi au Panama. Des fois au Panama, tu peux tomber sur des gens inattendus.
Ah, le problème, c'est que nous, on n'a pas grand chose à cacher.
C'est vrai. Voilà.
Et limite, Kevin, il aimerait avoir des trucs à cacher.
Non, mais blague à part, vous pensez qu'il va être déséquilibré ce match-là ou pas tant que ça?
Ce que j'ai vu du Panama contre le Ghana, et où ça peut bien jouer au ballon un petit peu, ils sont quand même limités notamment dans la phase offensive, la dernière phase. Moi, la Croatie, j'étais très déçu contre l'Angleterre. Modric, j'ai trouvé en
énorme difficulté. Un peu vieillissant quand même, la Croatie. C'est pour ça que ça peut éventuellement.
Et je pense que ça peut être un match sympa à suivre parce qu'il va être ouvert mais normalement, la Croatie doit gagner, ouais.
Bon, à suivre. Valentin nous appelle dès qu'il se passe un truc. Arthur Perrault avec nous, il suit l'équipe de France évidemment, avec toute notre équipe de reporters qui est actuellement à Boston. Arthur, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Alors évidemment, l'actualité de l'équipe de France aujourd'hui marquée par le deuil que connaît Didier Deschamps, qui a perdu sa mère et qui donc rentre en France et qui ne sera pas sur le banc du match vendredi face à la Norvège, Arthur.
Oui, c'est d'ailleurs les premières lignes du communiqué de presse de la Fédération Française de Football qui est tombé à 15h30 heure américaine cet après-midi. Ce communiqué qui précise que voilà, le sélectionneur national a eu la douleur ce matin d'apprendre le décès de sa maman. Il est donc sur le chemin du retour pour la France pour assister à ses obsèques, en accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France. Et bien Didier Deschamps a confié la responsabilité à son fidèle l'adjoint Guy Stéphan de diriger le groupe d'ici son retour. Voilà, et c'est, d'ailleurs c'est lui qui était présent tout à l'heure à la séance d'entraînement organisée du côté de la Bentley University, où il y avait de nouveau un match amical organisé avec les jeunes de New England Revolution, le club local. Voilà, il y avait beaucoup beaucoup d'émotions, une minute de silence d'ailleurs avant le début de ce match amical. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Didier Deschamps a pris brièvement la parole devant son groupe ce matin, joueurs et staff compris, avant le déjeuner. Un moment particulièrement émouvant, très touché les joueurs et les membres de l'encadrement qui avaient été avertis justement de la nouvelle dans la matinée. Voilà, avec beaucoup d'émotions, plusieurs regards étaient humides au moment d'écouter leur sélectionneur. Et voilà, malgré la douleur, Didier Deschamps qui a tenu à adresser un message fort à ses joueurs, le sélectionneur leur a demandé de poursuivre sur la dynamique positive actuelle et de continuer à tout donner sur le terrain. Et ce qu'on peut vous dire aussi, et c'est très important, et bien après cette annonce, les internationaux ont longuement échangé entre eux, souvent en petits groupes et toujours avec beaucoup de pudeur. Voilà, les Bleus qui veulent désormais s'imposer vendredi, non seulement pour conserver leur dynamique de victoire, mais aussi et surtout pour leur entraîneur. Donc voilà, il y a un vrai esprit de groupe qui était déjà en place du côté de l'équipe de France et qui est renforcé, malheureusement, j'ai envie de dire, par cette triste nouvelle du jour, Gilbert.
Bon, rien d'autre, rien de spécial sinon, sur le terrain, pas de blessés, tout va bien.
Non, la seule petite nouvelle, c'est que Aurélien Tchouaméni avait été victime d'une petite gêne musculaire et qu'il a participé justement au match amical de cet après-midi. Rien à signaler pour lui, ça semble aller. Et juste pour vous dire que voilà, il y a deux joueurs qui ont fait forte impression pendant cette opposition. Ce sont les Parisiens Lucas Hernandez et Désiré Doué qui s'est montré lui plutôt en jambes donc. Mais sinon rien de bien particulier, Gilbert.
Bon, très bien. Évidemment, l'Afterfoot présente ses condoléances au sélectionneur.
Absolument.
Et on espère qu'il reviendra vite, bien sûr.
Et qu'il revienne surtout quand il le sent, parce que effectivement très douloureux pour lui. Il avait, quand on est aussi longtemps à la tête d'une équipe, forcément les moments douloureux et les bons moments dans la vie t'accompagnent. Il avait également, au moment de la Ligue des Nations en 2022, perdu son papa.
Au mois de novembre,
il a dû quitter le groupe. Également Deschamps.
Alors avant de notre débat, les gars, sur la gestion du match face à la Norvège, j'ai quand même quelques infos à partager avec vous. Déjà vous dire que selon les prévisions météo, on pourrait ravoir le coup des orages vendredi à Boston. Il y a en gros une chance sur cinq pour qu'à nouveau il y ait orage.
Une sur cinq, ça fait 20%.
Ouais, c'est le National Weather Service, météo américain.
20%, c'est donc un 80-20. C'est au poker, j'ai les as. Voilà, a priori, on s'en sort.
Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'était vraiment 80% de chance qu'il y ait l'orage et il y a eu l'orage.
Voilà. Je voulais donc également, comme on l'a dit tout à l'heure, vous parler un peu des audiences avant qu'on parle de la Norvège. Parce que finalement, c'est assez surprenant. M6 est ravi parce que les audiences pour un match très tard et en pleine nuit sont selon M6 très bonnes. Moi, je connais pas grand chose aux audiences, donc je me rends pas trop compte de ce que ça représente à la télé. Mais donc la première mi-temps a réuni près de 9 millions de téléspectateurs pour un match à 23h. Quand ça a repris donc en pleine nuit, il était 2h du matin, il y avait encore presque 5 millions de personnes devant la télé. Donc on considère chez M6 que c'est excellent. Précision, il y a des potentiels 16e et 8e de finale également normalement à 23h si la France termine première de sa poule. Donc il y aura d'autres matchs comme ça la nuit. Bon, il y aura sans doute pas le coup des orages à chaque fois. Mais voilà, il commence à y avoir un effet Coupe du Monde qui se ressent sur les audiences en France. D'ailleurs, les audiences de l'Afterfoot, je vous le dis, les nuits de l'After sont aussi très bonnes. Donc ça y est, c'est parti quoi. La Coupe du Monde est lancée. Bon, vous allez me dire, ça fait presque 15 jours maintenant, mais des fois, il y en a qui prennent ça en cours de route, hein, ou qui attendent que l'équipe de France monte en puissance pour s'y intéresser.
Écoute, ouais, très honnêtement, en dehors de ce qu'on a dit sur la longueur de la compétition, à part en rapport aux 48 équipes, on a des beaux stades. Contrairement à ce qui se disait sur le prix des places, les ambiances et tout, on a du début à la fin. Ça commence par un protocole nouveau que moi j'aime beaucoup.
Une réalisation
télé pareil qui a été critiquée que moi perso je trouve bonne.
Une qualité d'image dingue.
Exactement.
On a des caméras.
Grosse surprise sur les affluences et les supporters. On a vu ici à New York des communautés de Norvégiens énormes. On a vu des Brésiliens. On a vu des Marocains.
On voit qu'il y a du pouvoir d'achat en Norvège.
Tous les pays. Regarde le stade de Panama.
Il y a plus de Norvégiens que de Français.
Un des pays les plus riches du monde, la Norvège.
Le stade est rouge. Le Panama Croatie, il y a des gens de partout. Donc les supporters se sont déplacés. Ils se sont démerdés parce qu'effectivement, on le sait, c'est cher. Donc il faut s'organiser, mais il y a eu de l'organisation. Les gens sont venus. Donc tout ce qui a été dit sur la Coupe du Monde, sur le machin et tout. Alors évidemment, moi je continuerai de critiquer la version 48. Et quand on me dit non, c'est bien, ben je dis bah dans ces cas-là, allons à 64, allons à 120, que ce soit sans limite. S'il faut faire plaisir à tout le monde, bref, je ne changerai jamais sur ce point-là. Mais la Coupe du Monde est une réussite pour l'instant. Exactement comme avant le Qatar, on avait eu 1 milliard de polémiques, mais la Coupe du Monde au Qatar a été une réussite. Et cette Coupe du Monde aux États-Unis, je n'en doute pas, va l'être également. Mais elle s'étire sur la longueur et on a envie, effectivement, on est impatient de rentrer dans le vif du sujet.
Ouais. Moi, j'étais
peut-être
encore...
aussi parce qu'on n'a pas encore vu Donald Trump. Je ne sais pas.
Je sais très bien de ne pas le voir d'ailleurs. Ouais.
Attends. D'ailleurs, info.
Alors, tu vas le voir pour la finale.
Il va remettre le trophée. Exactement. Ouais. Ouais. Infantino a dit aujourd'hui qu'il remettrait avec Trump le trophée de la. C'est incroyable.
Et il paraît qu'Infantino aura à côté de lui la fameuse boîte à cirage.
Ah, peut-être.
Et puis il aura Youri Djorkaeff derrière lui.
Hein, ah, tu veux dire une grande boîte en bois?
Une petite boîte quand même.
Et puis il aura Youri Djorkaeff derrière lui.
Il y aura
Djorkaeff.
Comme toujours, visiblement.
Mais moi, j'ai décidé de toute façon, à un moment, moi, je veux bien évidemment critiquer Trump, c'est très facile et je me mets avec tous ceux qui le critiquent. Mais, et pareil pour Infantino, encore plus Infantino, restons sur le foot. Et Infantino, Dieu sait qu'on a beaucoup tapé dessus. Mais à bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter. Parce que c'est très hypocrite, puisque tout le monde lui mange dans la main. Comme tout le monde lui mange dans la main, que ce soit tous les présidents de fédé, le seul que j'ai entendu critiquer un peu la Coupe du Monde sur les pauses fraîcheurs, les machins et tout, c'est Bielsa. Tous les autres sélectionneurs ne disent rien, les présidents de fédé ne disent rien.
Infantino,
j'ai dit que je me concentrais sur Infantino.
Parce qu'Infantino, c'est une chose, mais Trump, c'est autre chose.
J'ai dit que je me concentrais sur Infantino, parce que on va rester sur le foot.
Quand tu parles aux New Yorkais, même ceux qui ont voté pour Trump, ils sont pas dans le kiff total.
Trump, tu vas jamais me trouver pour le protéger. Je veux m'axer sur Infantino et même moi qui l'ai énormément critiqué, je le continuerai à le faire. L'usurpateur, celui qui a mis le couteau dans le dos de Platini, tout ce que vous voulez. Mais je veux plus de temps lui taper dessus parce que de toute façon maintenant il mange. Si je veux critiquer à lui, je vais prendre tous les Français qui mangent derrière lui. Tu l'as dit, George. KF, même mon président de San Remo, Carambeu, ils vont tous manger à la gamelle, tous les présidents de Fédé, partout, les sélectionneurs, ils y vont tous. Donc écoute, ils votent tous pour lui, sur tous les continents, ils votent tous pour lui. Tous mangé, les mecs de la CONCACAF qui ont eu leur billet pour venir tous les pays, là, au Curaçao, maintenant, puisque tout le monde joue à la.
Curaçao.
Tout le monde l'a fait la Coupe du Monde, donc ils ont tous croqué, ils ont tous mangé à sa table et à la gamelle. Donc autant arrêter de le critiquer, parce que sinon, faut taper sur tout le monde. Donc bon, écoute, ils l'ont voulu, ils sont tous contents. Donc
chacune des 211 fédérations affiliées à la FIFA reçoit au moins 300 000 euros par an de la FIFA.
Voilà, donc c'est la régalade pour tout le monde. Donc
ils disent qu'ils reversent tout l'argent.
Ça sert à rien de taper que sur lui. Quoi.
Sauf que le suivi de cet argent-là après sur ce qui devient concrètement dans les pays concernés,
En tout cas, pour revenir à.
C'est vrai que mon grand plaisir, c'est de regarder à chaque fois qui sont les joueurs qui sont là, parce que tu sais lesquels sont payés par la FIFA en fait pour être là. Et j'ai quand même l'impression que le pays le plus représenté, c'est le Brésil. Je crois que les Brésiliens, eux, ils viennent, ils prennent.
Oui, attention, parce que
ils sont tous là, les Brésiliens.
Tu vois, hier.
Les joueurs, tu veux dire.
Oui, les anciens joueurs.
Ça fout. Et là, ça rousse pas sur Infantino, oui, ça dit rien. Non. En même
ils
temps, pour l'ignorité de Joao Blanche.
Pour une fois, il y avait Cafu, il dormait un peu pendant le match.
Il mangeait dans la gamelle.
Pour du monde,
pour revenir à la gamelle. Pas vu beaucoup d'Anglais, d'ailleurs.
Non, John Terry aujourd'hui.
Ah, John Terry.
Dans la tribune officielle. Avec certaines sommes, peut-être qu'on y va sur la photo dans la tribune.
Quand tu es derrière la tribune officielle, c'est que tu fais partie des ambassadeurs FIFA. Donc, ceux qui sont payés pour être là.
Combien tu vas en tribune officielle avec Infantino?
Ah non, moi j'ai déjà refusé, hein. Je veux pas.
pour revenir à
Kevin, un bon resto à New York, il y va.
Une paire de basket, il y va, lui. Il a acheté 4 paires depuis qu'il est là.
C'est tout. Ça, c'est pas faux.
Seulement 4?
Ouais, 4. Mais pour revenir à l'expérience stade, hier, quand t'es au stade, vous parliez des Brésiliens, il y avait beaucoup de Brésiliens. Il y a beaucoup de Brésiliens partout.
À New York, il y a une communauté brésilienne incroyable.
Ils kiffent le foot, il y avait des journalistes, j'étais sur l'Observer site, mais il y avait donc beaucoup d'observateurs, des journalistes, des supporters du Brésil. Et quand même, quand t'es dans le stade, alors, tu parlais des stades. Pour moi, c'est les plus beaux stades du monde. Mais je suis peut-être pas objectif, parce que c'est les stades de NFL, mais de toute façon, c'est la plus grosse stade du monde.
Quand on va retrouver nos stades de Ligue 1, on va prendre une tarte.
Franchement, les stades sont
incroyable. À l'intérieur, le nombre de
les écrans géants, Kevin.
C'est ouais. Les écrans géants, mais même les food trucks à l'intérieur. Tu veux manger, tu peux manger de tout. Il y a les pop-corn, les glaces, les bières, les bonbons. Enfin bref, c'est
au Paris FC, t'as la frite à 5 euros.
Après, faut te saigner pour l'acheter. Mais
oui, d'accord. Mais je te parle de l'expérience stade, ce que tu veux. Si t'as les moyens, tu peux y aller.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'architecture. C'est pas le food truck.
Non, mais c'est pas symétrique comme nous on a en Europe. Aucun stade est symétrique.
C'est l'architecture, mais c'est aussi l'expérience stade. C'est-à-dire que c'est vraiment
l'expérience stade. Le parking à 200 balles. Ça, le hot dog à 25.
J'ai été à pied, je n'ai pas pris le parking. Mais tu peux aussi quand même.
Après, même sur le parking, il y a des gens qui me disent mais attends, arrêtez avec ça. Moi, j'ai payé que 20 balles. Il faut juste connaître, savoir et tout, bricoler.
Par contre, le business des parkings aux États-Unis, c'est comme ça que McCourt est devenu milliardaire d'ailleurs.
Tout à fait.
Avec le business des parkings à Los Angeles.
Autour du stade des Dodgers. Ouais. Mais après, quand t'es à l'intérieur du stade, la Coupe du Monde, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que, alors oui, on va me dire, OK, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas des chants partout. Mais il y avait toute une partie du stade où il y avait tous les Norvégiens avec leurs trucs, là, où ils font le rameur, c'est extraordinaire. T'as des taches de supporters avec du vert à gauche, du vert à rouge, du rouge à droite. Mais tout le monde est mélangé. T'as des gens qui ont le maillot du Mexique, t'as des gens qui ont le maillot du Canada. Tu prends.
C'est l'ambiance Coupe du Monde.
C'est exceptionnel.
Hier à Philadelphie,
extraordinaire, très belle ambiance.
Tu as raison, Kevin, de souligner.
C'est qu'un peu à la rugby, il y a pas de, c'est pas comme nous dans nos stades. Ah, t'as le maillot des Saint-Etienne, tu peux pas aller dans telle tribune, tu peux pas aller dans tel stade. Après, t'es parisien, tu peux pas aller là-bas.
Tu vois, rappelons qu'on a eu des coupes du monde ou des euros en France. Où il y a eu des drames.
Où il y a eu de la baston.
Pour l'instant, c'est pas le
Benetta,
cas.
Parce que
qu'en France d'ailleurs.
Parce que malheureusement, dans notre tradition du supporterisme, il y a aussi le hooliganisme. Et on a eu notamment à Marseille le fameux Angleterre Russie 2016.
En 98, le gendarme Nivelle.
Est-ce qu'on a le droit de penser que c'est moi par exemple.
Pour l'instant, ici, tout va bien.
C'est plus ce que j'aime en fait. Moi, je veux, comme au rugby, pouvoir aller voir mon club, aller voir mon pays, mettre mon maillot, peu importe où je suis, je veux aller dans le stade. En fait, et on va pas me dire, ah ouais, mais tu comprends, nous, chez nous, le supporterisme, oh, si t'as le maillot de Benfica dans le supporter de Porto, tu vas te faire taper, ou si t'es Lyon à Marseille, c'est pareil. Non, mais moi, je veux plus de ça, en fait.
C'est une culture différente. Voilà, regarde, moi, en finale NBA, par exemple, t'avais plein de supporters de New York Knicks qui étaient au stade de San Antonio, et tout, c'est très bien.
Un peu plus tendu.
Il y a eu deux, trois
problèmes. Un peu plus tendu, c'est évitable, avec l'alcool et tout ça. Et puis, attends, mais hier, à Philadelphie, juste pour finir, Kevin, t'avais beaucoup.
Quand t'étais au match,
De l'équipe de France, il y avait beaucoup d'Américains avec le maillot de l'équipe de France.
Non, mais ça, il y en a aussi.
Alors, il y a un phénomène que vous allez observer.
Pourquoi ça?
Je sais pas.
Attendez, il y a un autre phénomène que vous allez observer.
On n'est pas obligé d'aimer les footix non plus.
Quasiment pour chaque grande nation, il y a à chaque fois beaucoup d'Asiatiques qui s'identifient et qui sont là en groupe.
Et pourquoi? Mais
je sais pas, j'aimerais bien que vous repartiez en Asie aussi.
Et moi, j'ai vu des Américains avec le maillot du Sénégal.
En fait, ils viennent, ils s'identifient, je pense, Jimmy a raison, Jimmy Brown qui est là au Star, et ils viennent en groupe avec hier, il y en avait plein avec le maillot de l'équipe de France, l'autre jour, maillot du Brésil, maillot de la Belgique.
C'est assez étonnant. Ce que tu me décris, c'est un peu des vacances.
Rupture des stocks sur le maillot.
Oui, c'est footix à l'échelle mondiale.
Rupture des stocks sur le maillot des Bleus.
Tu vois, en Angleterre, où tu as une forte culture NFL, donc football américain, parce que ils sont pas basket, ils sont très football américain. Dans les années 90, il y avait beaucoup de foot américain à la télé. Donc ils ont leur club, ou leur franchise. Mais si t'as un match à Londres, par exemple, qui n'implique pas leur franchise, ils y vont quand même au match pour voir la NFL à Londres, mais avec le maillot de leur franchise. Donc ils vont voir Patriots contre Jets, par exemple, avec un maillot des Giants. Et tout le monde tu vois plein de maillots différents à Wembley, à Twickenham, au Tottenham Stadium. Et c'est comme ça. Et c'est un peu la même chose ici avec les Américains qui aiment le soccer, mais qui n'ont pas vraiment une équipe.
Revenons à l'équipe de France et au terrain. Dans un instant, on parle du match de vendredi face à la Norvège. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 19h21, ici à New York, dans le studio de l'After. Il est 1h21 en France. Si vous suivez la nuit de l'After jusqu'à 5h du matin, Daniel Riolo, Julien Laurence et Kevin Diaz sont là. Et le match Croatie-Panama est en cours. Il ne s'est pas passé grand-chose apparemment, puisque Valentin ne nous a pas appelé. Valentin.
22e minute de jeu, je vous confirme. 0-0, même si c'est plutôt équilibré. Hein. Le Panama là vient d'avoir une situation avec Martinez qui a débordé côté droit, mais son centre est allé directement dans les gants de Livakovic. Murillo aussi avait bien débordé, mis un super ballon, mais qui n'a pas pu être coupé par son attaquant. Donc les Panaméens offensifs. Et puis côté croate, on voit plutôt Baturina pour le moment, le milieu de terrain de Com. Je regardais, Daniel, tu parlais d'une équipe un peu vieillissante. Il n'y a que deux joueurs qui ont moins de 25 ans. Sinon, on a Modric 40, Kovacic 31, Livakovic 31. Donc c'est vrai qu'on est.
Ah ouais, c'est les papilles.
Perisic 37 aussi. Donc voilà, peut-être la dernière danse de cette génération qui a fait beaucoup évidemment et qui était encore en demi-finale il y a 4 ans. Il se passe pas grand-chose, la pause fraîcheur va arriver. 22e minute de jeu, 0-0 entre le Panama et la Croatie.
L'équipe de France donc au programme, match vendredi soir face à la Norvège. Donc là, ce sera pas à 23h, ce sera à 21h en l'occurrence. Avant de parler de la stratégie à adopter, juste une petite info au mercato, Julien, tu vas pouvoir nous dire, mais Lacroix pourrait aller à Chelsea.
Ouais, c'est vrai qu'il cherchait il cherche un défenseur central, voire même peut-être deux. C'est Xabi Alonso qui a demandé ça, et effectivement, il a une très grande cote en Angleterre, Maxence, et il le mérite d'ailleurs parce qu'il a fait vraiment deux très très belles saisons.
Il a gagné la Conference League avec Crystal Palace.
Et Chelsea, je veux dire, à un moment, ils vont se séparer de certains joueurs ou ça va devenir le 53e et 54e?
Non, je pense que
peuvent nous renvoyer Mamadou Sarr à Strasbourg, si
parce que là, à un moment, là, combien ils en ont, défenseurs centraux, là? Parce que c'est bien beau de dire à chaque fois, je prends le nouveau parce qu'il va être bon, mais les autres, ils en font quoi?
Voilà, c'est vrai que ça commence à faire
c'est
beaucoup.
C'est juste fou, en vrai.
Effectivement. Mais oui, je pense qu'il y en a qui vont partir. Aussi, on pense que Xabi Alonso va vouloir jouer avec une défense à 3. En tout cas, c'est l'idée visiblement qui semble être le cas. Et donc forcément, il a aussi besoin de...
En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, et comme ils en changent deux par an, le mec veut à chaque fois des nouveaux joueurs.
Excusez-moi, il y a une énorme occasion pour le Panama là, quand ouais, même, Valentin.
Ouais, juste avant la pause fraîcheur, la barre transversale l'a touchée par José Luis Rodriguez après un appel en profondeur à droite d'Amir Murillo qui évite le ballon de sortir, qui centre au deuxième poteau et la tête de Rodriguez qui est d'abord touchée par Livakovic qui la met sur sa barre transversale et donc on était tout proche de l'ouverture du score panaméen face à la Croatie. On est à la pause fraîcheur. Ça aurait été un gros coup quand même des hommes de Thomas Christiansen. On en reste à 0-0, mais ça illustre ce que je vous disais, match équilibré, en tout cas pas du tout de la domination de la part de la Croatie et donc la barre touchée par les Panaméens. Post fraîcheur à Toronto, 0-0.
Ah, tout à l'heure, donc pardon, vous disiez à propos de Chelsea et des défenseurs centraux.
Ouais, qu'il y en a beaucoup déjà, effectivement. Oui. Après t'as ceux effectivement demandés par les entraîneurs successifs et il y en a beaucoup. Il y a ceux comme Sarr, ton Strasbourgeois, que t'as fait revenir, enfin que t'as fait venir, pardon, mais
pour ne pas les faire jouer quasiment,
sans qu'on sache vraiment trop pourquoi. Il y a des joueurs comme Tosin qui n'ont pas le niveau, qui seront plus là de toute façon. Mais oui, je pense qu'il va vouloir se baser autour d'une recrue forcément, voire deux, d'un Fofana, mais avec les problèmes physiques qu'on connaît, d'un joueur comme Colwill, qui est très bien revenu là après sa rupture des ligaments, et qui sera un joueur très important pour Xabi Alonso. Mais oui, s'il y a une défense à trois, il y a besoin.
Comme dit Daniel, il y a une équipe à Strasbourg.
Quoi, t'as dit quoi?
Est-ce que tant qu'à faire, est-ce qu'ils peuvent donner une équipe à Strasbourg et un coach, s'ils leur font un coach aussi? T'as pas des infos là-dessus?
Ah oui, O'Neill, c'est officiel, coach, il est parti.
O'Neill, c'est parti.
Parce que Strasbourg n'a plus de coach. Et les
pourquoi
joueurs,
il est parti, O'Neill?
Il part, donc
il va à Ipswich.
Ouais, l'attrait de la première ligue, je pense, quand même.
Et vous allez prendre qui comme coach, Gilbert?
Habib Bey,
allez.
Ancien Strasbourgeois, moi, ça me plairait.
Il pourra enfin, je pense que c'est un bon choix.
Et enfin, on va prendre Ismaël.
Non. Valérien Ismaël est libre aussi, un enfant du club.
Qui a fait des très bonnes choses, exactement. Et des moins bonnes choses, comment
dire. Oui,
un peu.
Comme tout le monde, comme toi, Mitty Génial, sache-le.
surtout Daniel.
Mais peut-être qu'on va avoir
plein de moins bonnes choses.
Mais peut-être qu'on va avoir Matthew McDermott, ah oui, qui vient de
McFarlane.
Qui est en équipe 3 de Norwich.
Bah, en tout cas, l'adjoint Callum McFarlane, qui avait assuré l'intérim après le départ de Maresca.
McFarlane, pas confondre avec McFadden.
Non,
pas McFadden. Victor au Parc des Princes.
James,
Michael Landreau, bien sûr.
Michael Landreau.
Michael Landreau. Ah.
Je le vois demain matin d'ailleurs, j'ai une émission avec
Qui, Landreau?
McFadden.
Ah, sérieux?
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il sait que Grégory Coupé avait dit, moi je l'aurais arrêté?
Eh ben, je lui en parlerai, si tu
veux. Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
C'est Landreau qui avait dit, moi je l'aurais arrêté, moi, c'est Coupé qui était dans les buts.
Moi je l'aurais pas pris. C'était pas, moi je l'aurais pas pris celui-là. C'était dur. C'était, voilà.
Bref, on parlera demain. Ça date un peu d'il y a quelques années, cette histoire. Bon.
Il était à les mains opposées, non, c'est ça?
C'est ça, ouais. Il était à les mains. De 40 mètres, en plus,
Au Parc des Princes.
Défaite 1-0.
Bon, quelle stratégie adopter face à la Norvège, les gars? Alors, en fait, je vous mets tout sur la table. On va commencer à regarder le tableau, quand même. Tu finis premier, t'as la perspective d'un match contre l'Allemagne en huitième.
Bah, fait exprès de perdre, alors, Gilbert.
Non, mais je vais au bout.
De tableau, je pense que
à partir du moment où tu vas commencer à partir, je mets tout sur la table.
Avec Daniel.
La seule conclusion, ça va être tu fais exprès de perdre. Donc ne mets rien sur la table, on va pas manger de ce pain-là.
Exactement. Moi, je te dis qu'il y a une stratégie, c'est de dire je peux faire tourner un peu. Parce qu'au final,
Et t'envoies le message à tes remplaçants, et vous êtes des pompes à vélo, et vous allez
Parce qu'au final, si je perds, c'est pas bien grave, en fait.
En fait, peu importe la façon dont tu proposes ton repas, c'est pas bon.
Ouais,
c'est parce clair. Que soit d'accord. C'est de toute façon évidemment tu fais pas exprès de perdre.
Gilbert.
Et deux,
Ah, mais moi, tu mets une équipe B. En plus, attention.
Je lance le débat, moi.
T'es d'accord avec ça. Autant, tu voulais faire 3-4 joueurs, ça existe, mais autant, genre, tu mets carrément une équipe complète de quoi faire, ça ne sert à rien, ça, c'est pas vu. En plus, là, il y a toujours 5-6 jours entre les matchs.
Parce que les Norvégiens, apparemment, ça les dérange pas d'être deuxième, ils l'ont dit hier.
C'est ce que Haaland a dit, mais c'était plus sur le ton un peu ironique.
Tiens, écoutons-le d'ailleurs.
Honnêtement, je m'en fiche un peu de ce match. Le plus important, c'est que nous sommes qualifiés. C'est incroyable. Ce match, je m'en soucie pas trop. Ils vont probablement nous battre et remporter la Coupe du Monde.
Mais dans la peau de Haaland, moi, je trouve que c'est génial.
J'adore.
Joueur de poker.
J'adore, exactement.
Si tu finis premier, de toute façon, c'est Allemagne, Espagne, Maroc. Si tu finis deuxième, à l'heure actuelle, c'est Brésil, Angleterre, Argentine. C'est la même chose.
Ouais.
Donc, je suis d'accord avec Daniel. Mets ta meilleure équipe.
Arrête
joue pour
calculer,
finir premier.
Il n'a jamais ça.
Moi, je suis pas d'accord pour mettre la meilleure équipe. Pour moi, si tu dois laisser reposer Kylian, faut laisser reposer Kylian.
Moi, je laisse pas.
Mais je vois pourquoi tu veux le laisser reposer. Il est fatigué. T'as dit qu'il était fatigué.
Je te parle pas forcément d'être fatigué.
Tu veux laisser reposer Koundé.
Un match tous les 5-6 jours. Quel est le problème?
Mais c'est pas la question. Tu peux prendre un mauvais coup. C'est un match qui compte pas non plus pour grand chose. Je suis désolé.
C'est le match le plus important de ta phase de poule parce que c'est le meilleur adversaire.
En 98, ils ont fait tourner. Ça les a pas empêchés d'être champions du monde. Et ils ont mis les coiffeurs contre le Danemark.
D'accord, mais c'était pas la Norvège déjà.
Déjà, tu jouais pas. Déjà,
en 2000, ils perdent les Pays-Bas. Ils sont quand même champions d'Europe. Non, moi, attention, parce que quand t'es quand même dans de la gestion,
le rythme n'était pas le même là, c'est 6 jours les matchs,
mais justement
fais le changement.
Je te prends au mot, le rythme des matchs n'était pas les mêmes non plus. Voilà,
dans cette Coupe du Monde, les rythmes ne sont pas dingos.
Non, mais il y a quand même de l'intensité.
On est à 100 km de.
Tu vas jouer les Norvégiens, ils vont te rentrer dedans, les mecs sont costauds. Non, je suis désolé, je te dis pas de mettre.
Ne te prépare pas, il va direct à ton 16e sans avoir joué un grand match parce que le mec était costaud.
Si tu dois laisser un joueur clé.
Donc, t'es coach, tu dis à Kylian, tu joues pas ce match.
Non, mais Olise.
Mais si lui, il te dit, j'ai envie de jouer, tu dis quoi?
Olise, joue pas. Olise, pour moi, il joue pas.
Bah, va lui imposer ça s'il a envie de jouer.
Et alors, je m'en fiche en fait, c'est moi le coach. Moi, je suis là pour préparer pour aller gagner la coupe.
T'as besoin d'automatisme, t'as besoin de bosser avec tes joueurs, t'as besoin de mecs jouer ensemble tout le temps.
Pour moi, t'es pas un match.
Je ne dis pas
qu'il faut le faire absolument, je te dis que s'il le fait, je le comprends et j'ai aucun problème avec ça.
Moi, je pense qu'il le fera pas avec ces joueurs-là en tout cas. Il va faire revenir Tchouaméni.
Ici, il se blesse, le mec.
Mais
on fait quoi?
Kevin, surtout que tu peux largement.
En 16e de finale.
Et alors, mais en 16e de finale, c'est un match
Kevin,
au couteau.
Le temps de jeu.
C'est pas un match au couteau.
Kevin, le temps de jeu, tu peux le travailler autrement. Tu peux le travailler. T'as 5 changements. Tu peux le travailler à la 60e, à la 45e. Tu peux tout faire.
En disant, mais s'il se blessait.
Il y a des joueurs dans une équipe qui sont irremplaçables. Et dans un match où tu peux très bien, comme il a fait là, il a sorti Tchouaméni. Pour moi, Tchouaméni, c'est un joueur ultra important de l'équipe.
Ouais, il était un peu blessé aux adducteurs.
Là, il revient.
Il a sorti Hernandez
parce que ses performances sont pas à la hauteur.
Voilà, Dings,
c'est pas pour le faire reposer. Faire un test, Kevin. Il y a aucun argument qui tient la route dans ce que tu dis là.
Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de t'expliquer.
T'as une réflexion.
En 98 et en 2000, ils ont fait tourner.
Il y a 25 ans.
Mais c'est une réflexion moyenâgeuse. Les matchs se jouaient tous les 3 jours.
Mais Luis Enrique, il fait tourner tout le temps en Ligue 1. Si tu me parles,
c'est en Ligue 1, ça n'a rien à voir.
C'est une saison à 60 matchs. C'est pas
du monde où il y a plus de matchs qu'avant.
Il y a un match de plus.
C'est un match.
Ah non, Kylian, s'il veut jouer 8 matchs, il jouera 8 matchs.
Je pensais un peu aux gens qui, à 1h30 du matin, vous écoutent et se disent déjà, je dors pas à cause de la canicule.
Justement, tu veux qu'on s'endorme?
Ils ont le même débat que nous chez eux.
Tu veux qu'on s'endorme?
Qui nous appelle, les gens qui veulent s'endormir? Qui nous appelle? Appelez le 32.
Qui veulent pas s'endormir.
Dites-nous si vous êtes d'accord avec Daniel Riolo ou avec moi-même.
Ou avec la réflexion moyenâgeuse de Kevin.
Pas moyenâgeuse, c'est
moyenâgeuse.
En 78, il avait fait tourner.
À l'Euro 2000, il y avait 5 jours entre chaque match. Là, il y a 4 jours entre chaque match.
Kevin, la vérité,
je suis désolé. Si on perd au Lycée, on est en 6 jours.
En 58. Il a pas fait tourner parce qu'il y avait pas de changement.
Ben voilà. Ben là, il y a des changements. Le coach.
T'en as 5. T'as les moyens de gérer tes temps de jeu.
Et alors, ben non. Et alors, pourquoi il pourrait.
Fais jouer ta meilleure équipe. Ils ont besoin d'automatisme. Ils ont besoin de jouer ensemble, de trouver la confiance.
Ouais, c'est vrai que, rappelle-toi les préceptes de coach Courbis. On ne joue pas à 11, on joue à 16.
Bien sûr, voire à 21 ou voire à
22. À l'heure de jeu, il va faire 3 changements.
Même à la mi-temps, il peut, par exemple.
Roland, il aurait mis tout le monde au placard, là, pour le troisième match.
Ah, je suis pas d'accord, je pense.
Non, pas dans la config aujourd'hui, là.
Quand tu peux finir premier.
Mais on vient de te dire finir premier, deuxième.
C'est... Non, mais d'accord, mais quand même. Moi, je veux psychologiquement, c'est important de ne pas perdre
pour vous, de pas perdre. Pour vous, enlever trois joueurs clés pour pas qu'ils se blessent, voire les faire jouer 20-25 minutes, c'est mettre en péril la première place. Et on ne peut pas gagner avec les autres.
Kevin, je vais même te dire.
Même en faisant nul tes premiers, attends, je te dis. Et au contraire, si tu fais tourner Olysée, tu mets un Cherki, tu donnes de la valeur à Cherki, tu lui dis voilà, je sais que là, on est qualifié, certes, mais je sais qu'avec toi, on peut aller la chercher.
Ça se trouve, il va jouer une mi-temps et ils vont se
partager le match. Mais le joueur, il veut être titulaire. Il veut être titulaire, le joueur, il veut commencer le match, c'est comme ça.
Non, mais arrête, ça aussi, c'est
pourquoi, Olysée, tu pourrais pas le faire rentrer 30 minutes? Pourquoi je comprends pas,
tu fais pas
ils vont faire
des c'est pareil.
De temps.
Mais non,
ils vont
mais
faire
si.
Des partages de temps.
C'est pas pareil.
Mais
quand,
si.
Quand tu rentres dans un match, c'est pas comme quand tu débutes, c'est pas la même intensité, t'as moins
surtout
d'efforts.
Que, puisque tu parles de ça, je pense que justement dans ce match-là, c'est pas on sape dans la main parce qu'on est qualifié, mais il y aura pas une intensité de dingue. Parce que les deux sont qualifiés.
D'accord.
Il y a pas d'intérêt de se rentrer dans la gueule. Je te dis qu'il n'y aura pas une intensité de fou. C'est pas la vie à la mort parce que les deux sont qualifiés.
On n'arrête pas de dire qu'on a le plus grand vivier. Quel est le problème de faire tourner 3-4-4?
Il va faire, mais je sais pas si ce sera pas des cadres. Il va faire 2-3 changements. Je te dis, Tchouaméni va revenir. À mon avis, il va mettre Rabiot au repos.
Tchouaméni a besoin de jouer parce qu'il a fait qu'un match. Donc Rabiot peut-être pourra laisser.
Voilà, je pense que Koundé va être au repos.
Moi, je te parle de Mbappé et Olysée.
Mbappé, s'il a pas envie, tu lui diras pas d'aller sur le banc. Il a envie de jouer, il a envie de mettre des buts.
Non, pas maintenant. J'ai pas dit qu'il
Kevin,
le...
pas maintenant.
J'ai pas dit que si le mec il te dit non, coach, moi il faut que je joue, sinon on va s'embrouiller.
Bah, okay. Il y a deux minutes, t'as dit, il ferme sa gueule, c'est moi le coach.
D'accord. Il y a toujours des échanges. Il y a toujours des échanges.
En tout cas, le débat reste ouvert et on va voir ce qui se passe d'ici vendredi. Dans un instant, la Norvège. On en parle un peu plus en détail. Kevin, t'étais au match en plus. Et après, on parlera des stars. Parce que Julien, lui, il aime quand les stars se tirent la bourre. Le direct, Panama, Croatie, c'est reparti en première mi-temps, Valentin.
Et il se passe toujours rien. 34e minute de jeu, 0-0. Et la barre transversale que je vous avais annoncée a même été, on va dire, annulée, entre guillemets. En tout cas, le ballon était sorti avant le centre de Murillo. Donc, match assez terne pour le moment. 34e minute de jeu. La Croatie est un peu plus haute, mais toujours tenue en échec. 0-0 face au Panama.
A tout de suite dans les nuits de l'after.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 1h37 du matin en France. Il est 19h37 ici dans le studio américain de l'After avec Kevin Diaz qui est là, avec Daniel Riolo, avec Julien Laurence. Kevin, tu étais donc au match de la Norvège hier soir. Bon, t'as parlé de l'ambiance, les rameurs, tout ça, c'est bien. Maintenant, faut qu'on parle un peu du terrain quand même, parce que bon, il y a des joueurs qu'on connaît bien. Alors Odegaard, Julien le voit toute l'année, il le connaît par cœur. Haaland, on commence à connaître par cœur aussi. Nusa, Sorloth, tout ça. Si tu devais nous donner un peu les atouts, les qualités premières de cette équipe, c'est quoi?
Bah déjà, j'ai trouvé que c'était une équipe très moderne. Alors on le sait, hein, Bodo Glimt, que c'est un club qui travaille bien dans la
formation. Mais c'est un club qui ne fournit pas.
Ouais, ils ont très peu de joueurs. Hein.
Oui, non, mais je te parle du football norvégien. Malgré des petits moyens, c'est quand même un pays qui travaille bien à la formation, qui a des bons résultats même dans les équipes de jeunes des fois, et qui aujourd'hui a une belle génération de joueurs qui arrivent au plus haut niveau. Et moi, j'ai trouvé cette équipe, pour moi, qui était meilleure que le Sénégal, vraiment au-delà du score. Ça joue au ballon, ça repartait de derrière, il y avait du pressing, c'était agressif. J'en ai parlé avec Julien tout à l'heure, Ayer, que moi je découvrais un peu parce que je connaissais pas trop, même s'il joue en première ligue, très très bon. Les centraux, les latéraux assez offensifs, très très bon milieu de terrain là, le 8, Berg.
Qui est rentré à la pause,
Qui est rentré à la mi-temps, très très bon joueur.
Berg ou Berge?
Non, Berg, il y a les deux. Berg était titulaire, mais Berg, l'ancien Lensois de Bodo Glimt.
Très bon joueur aussi. Berge aussi, très bien. Orsnes, on connaît un peu mieux, mais ça reste tous des bons joueurs. Et j'ai trouvé un excellent Martin Odegaard. Vraiment. Il a eu 15-20 minutes à rentrer dans son match. Ouais. Mais après, au-dessus.
Déjà, t'as un duo dans cette équipe qui est très haut de gamme, qui est football top niveau. C'est Odegaard, Haaland. Déjà, là, t'es dans ce qui se fait de mieux au monde. Ensuite, autour, effectivement, moi, j'ai le sentiment avec cette équipe que elle peut perdre, il y a des équipes qui vont la battre, mais l'équipe qui va battre la Norvège, elle aura affiché une nette supériorité.
Ouais.
Que les mecs, en termes de détermination, d'occupation du terrain,
c'est très carré.
D'abnégation, de travail.
C'est très clair.
C'est clair, net, précis. Tu veux leur marcher dessus, montre que t'es meilleur. C'est un petit peu, avec beaucoup moins de qualité, pour le coup. Pareil pour les Suédois, qui avaient pris un score très boursouflé contre les Pays-Bas. Mais c'est pareil, les Suédois, tu veux les battre, montre-le, quoi. Mais ils ont beaucoup moins de qualité que la Norvège.
Ouais,
la Norvège est dans une génération. Moi, je me souviens de la Norvège ce qu'ils avaient fait un peu de meilleur, c'était 98
avec Mondo. Ouais, ouais.
Mais mine de rien, c'était là encore beaucoup de détermination, beaucoup de course, mais techniquement, c'était russe.
Là, techniquement, c'est très bon.
Là, techniquement, il y a des joueurs de ballon dans cette équipe de Norvège. Il y a des bons joueurs.
Ça, c'est très fort.
Après, je suis pas sûr de Sorloth à droite.
Ouais, Sorloth, j'aime pas.
Ça, c'est pas du tout.
Alors, moi, j'ai pensé à c'est vraiment faut faire jouer le mec qui est le plus
connu. Voilà. J'ai eu la même idée, c'est bon. Mec, t'es à l'Atlético où t'es pas titulaire en plus, mais comme t'es un peu vedette et tout, toi, il faut qu'on te fasse jouer. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'ils ont mieux à faire jouer sur le côté, parce qu'en plus c'est pas une position idéale pour lui. Mais le mec, il va au charbon. Après, malgré tout, il est utile dans toutes les prises de dos au but. Il est utile, il fait jouer tout le monde. Mine de rien, Sorloth. Après, faut le bouger, le gars, quand même.
Après, ça peut jouer à l'expérience aussi, je pense, parce qu'encore une fois, cette génération, on connaissait pas la coupe du monde ni l'Euro. C'est la première grosse compétition pour eux, pour Solbakken aussi. Même si c'est des joueurs qui sont habitués avec des champions, donc les gros hommages, les grosses ambiances, ils connaissent quand même. Mais après, ça vaut
ce que ça vaut sur ce qu'est l'Italie aujourd'hui, malheureusement et tout. Mais les deux fois qu'ils les ont battus, déjà, c'était assez violent quand même. Ouais, je veux bien que l'Italie ait beaucoup dégringolé, mais mine de rien, s'être retrouvé dans ce groupe-là, c'est ça qui a fait la chute de l'Italie, c'est de se retrouver avec cette Norvège qui lui a mis deux tartes dans la gueule quand même. Ouais. Où il y avait pas photo quoi.
Et puis il y a pas que ça, hein. Tu vois, tout un engouement, comme on disait, les supporters autour, l'ambiance.
Quand t'as une génération pareille, une équipe qui donne autant, j'imagine que les foules, c'est un petit pays la Norvège. Hein.
C'est un tout petit pays. Enfin, c'est un pays grand sur la superficie, mais il y a pas beaucoup d'habitants.
Il y a pas beaucoup d'habitants.
Mais par contre, j'ai trouvé aussi quand même Haaland très très bon. Vraiment,
Haaland, il fait partie de stars qui a rendez-vous avec le mondial.
Ah ouais.
Il a rendez-vous surtout avec son mondial comme d'autres. Hein.
Oui, mais la période est plus difficile.
Ouais, même Dojeu, il est disponible. Il a moins de ballons.
Il va pas rater.
Je pense qu'il a beaucoup moins de pression qu'à City.
Il met un poteau.
Il a beaucoup moins de pression dans le sens où, en première ligue, c'est la star, pas juste de City, mais du championnat en lui-même.
Là, il a l'impression que c'est le leader du pays quand même.
Oui, mais ici, on parle que de Messi, on parle que d'Mbappé, on parle que de Cristiano, on parle que de tout ça, même les États-Unis, etc. Il n'est pas dans le.
Et puis ils savent s'enlever la pression. Il dit nous on n'est pas attendu.
On finira deuxième.
Son interview d'après match, elle le montre.
Exactement.
Jamais il va dire ça en
première
ligue. Je pense
que ça l'aide beaucoup.
Ils ont ce côté décontracté qu'on voyait chez les Danois à une époque et tout.
Par exemple,
on est tranquille, on boit une bière et après on donne tout sur le terrain.
Il a mis une vidéo de lui qui marche dans New York où personne le reconnaît. Ça le fait rire lui-même. Il est là en train de se filmer dans les rues new-yorkaises. Personne le calcule, personne le reconnaît.
C'est génial pour pas le reconnaître.
Et je pense qu'il a vraiment moins de pression.
À New York.
Et je pense que
Kevin marche peinard à New York, personne l'arrête.
On m'a arrêté pour me demander si j'étais bien des RMC et de l'after. J'étais avec Nicolas Jamin.
Il y a un Brésilien qui l'a arrêté qui a dit. Vous êtes pas néné par hasard? Il a dit non, moi je suis le néné de Wish.
Métro, Times Square, le premier soir.
Néné de Temu.
Si, mais de Wish. Ah ouais.
De Wish, de Temu.
Après, il y a tellement de Français à New York qu'il y a quand même des auditeurs de l'after. On parlait.
Bien sûr, il y en a plein.
Le gars, il m'a demandé, est-ce que c'est bien vous? RMC Sport, il m'a dit. J'ai dit oui, c'est ça, RMC Sport. Et il nous a proposé des places pour le lendemain, mais il fallait payer, c'était un peu cher.
Ça arrive.
Ah ouais, c'était un vendeur au black de place en fait.
Je pense que si ça avait été Gilbert, il lui donnait les places.
Non, c'était pas un vendeur au black, c'était un fameux concierge de.
En parlant de vendeur au black, hier, l'équipe a fait un papier, a ressorti la fameuse histoire Domenech 94.
On la connaissait tous, celle-là.
Ouais, mais on la connaissait, mais le relire,
c'est
le
vrai, papier, c'est vrai, les circonstances,
le contexte, c'est fantastique.
Ce qui est quand même très confraternel quand on sait que Domenech bosse pour la chaîne de l'équipe.
Et donc,
moi, je me suis toujours trompé parce que j'ai toujours dit que c'était Corée du Sud, Bulgarie. Or, c'était Corée du Sud, Bolivie.
Mais c'est quoi l'histoire?
Il y avait trois places. Et il en avait trois.
Pour France
et il s'était mis devant le stade. En fait,
devant le stade.
La France ne s'étant pas
qualifiée. À la demande de la Fédération française, en fait. Attention.
La France ne s'étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde, il y avait un quota de place. Et lui était consultant France Télé. Et il commentait les matchs avec Dominique Leglou. Et il lui restait trois places pour ce match en carton. Et il était allé devant le stade avec les trois places. Et il avait dit, who wants the tickets, quoi. Et il était dans un état où, vendre de cette façon, c'était immédiatement répréhensible. Il s'est fait coffrer immédiatement. Il est allé au poste.
Ah, mais faut quand même préciser que c'était pas pour son bénéfice personnel.
C'était la Fédé.
C'est la Fédé qui lui a dit on est un peu mal parce que.
Non, la Fédé ne l'a pas couvert. D'ailleurs, il en a tout le temps voulu à vie.
Oui, mais
c'est pour ça qu'il a été brouillé à vie avec Gérard Rouillet.
Mais la vérité. Ce qu'on en sait, nous, c'est que Gérard Rouillet lui a passé un coup de fil en disant est-ce que tu peux essayer de revendre les places, ça nous arrangerait.
Mais vous allez gagner combien sur l'histoire?
En tout cas, la Fédé l'a appelé en lui disant vas-y, essaie de les revendre. Donc lui, il y va. C'est son employeur qui lui dit vas-y, quoi. Donc il y va.
Et ouais. il avait été lâché incroyable. Par la Fédé parce que comment s'appelle Gérard c'est pas Ernaud c'est non, qui était un rôle important la Fédé j'ai un trou bref et qui a dans ses déclarations après l'événement avait dit ok mais nous on lui a jamais demandé d'aller devant le stade pour vendre les places hein. Ouais, ok il fallait qu'il s'en débarrasse mais pas de cette façon quoi. Et donc, lui, il avait pensé qu'il allait les vendre comme ça. Ouais. Hop, les flics lui sont tombés dessus en deux minutes. Ils l'ont
Gérard Henault.
Ouais, Gérard Henault. Ah,
voilà. Était DG à l'époque
de la Fédé.
Mais moi, j'aimerais bien savoir s'ils les avaient vendus. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de l'argent
pour les Fayards.
Qu'est-ce qu'ils auraient fait de l'argent des places? Ils les auraient remis à la banque, à la Société Générale le lundi.
Et c'est ça que c'est.
On vient vous.
Tout était bizarre.
Les 300 euros, c'est
pour les auraient pris leur compte Foot Club.
En dollars. L'histoire raconte aussi.
Ils se seraient connectés sur Foot Club.
Il était attendu pour commenter un match avec le Glou et que le Glou ne le voyait pas arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont cru un accident et tout. Et en fait, après,
il était locked up.
Quand il était en taule, le peu qu'il a passé en prison, il a réussi à pouvoir passer un coup de fil. Il a passé un coup de fil et après ils l'ont fait libérer. Il n'a pas resté en taule
non plus. Et en plus ils lui ont confisqué de la thune qui était la sienne.
Alors qu'il ils ont piqué sa thune à lui.
Il pensait que ça allait de vendre de place.
Mais attends, mais comment elle est sortie cette histoire?
Il y a dans l'équipe.
L'histoire ne dit pas comment Dominique Le Glou s'est démerdé pour commenter tout seul Corée du Sud Bolivie.
Je suis pas sûr que c'était ce match-là qu'il fallait commenter. Ah oui. Je crois que c'était un autre. Lui, il vendait les places de Corée du Sud Bolivie, mais c'était pas ce match qu'il commentait.
Ah d'accord, parce qu'en plus c'était. Lui, il était juste là.
Je sais pas.
C'était devant. Stade.
T'es au stade. T'es au stade. Tu vas pas vendre Corée du Sud Bolivie si t'es au match pour Ghana Ouzbékistan. Bref.
Là, le match qui fait rêver Corée du Sud Bolivie.
Ah, je te jure. Ah l'histoire.
Bon, sur la Norvège, on a fait le tour, plus rien à dire. Très bien. Donc, dans un instant, on revient et on va parler des stars. Des stars qui marquent et qui se tirent la bourre. Parce que Julien, il adore ça. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 1h47 du matin en France. Il est 19h47 ici dans le studio américain de l'After. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là. Julien Laurence avec nous ce soir. On va faire un petit peu de coaching tout à l'heure à partir de 2h du matin avec Florent Gautreau qui va arriver, Walida Cherchour. On va parler des stars du mondial là qui se tirent la bourre. Mais d'abord un point sur le match parce qu'on est quasi à la mi-temps de Panama-Croatie. Valentin.
Il reste 5 secondes dans les 3 minutes annoncées de temps additionnel. 0-0 et la grosse occasion de la première période est intervenue il y a quelques instants avec Baturina qui a frappé à l'entrée de la surface du pied droit et le portier panaméen Mosquera est bien allé la chercher là à droite à ras de terre. C'était la seule frappe cadrée de cette première mi-temps qui s'achève. Bon match des Panaméens mais pas grand chose à signaler. La Croatie est plutôt on va dire décevante. 0-0 à la pause entre Croates et Panaméens à Toronto.
À tout à l'heure. Attention, un avis Julien Laurence. C'est pas tous les jours hein, que ça arrive dans l'after. C'est pas toutes les nuits non plus, parce qu'il passe souvent la nuit. Et d'ailleurs, nous avons un jingle Julien Laurence.
C'est vrai?
Et oui.
On a vu des banners. Je sais pas comment en français. Tu sais des.
Merci.
Ça va être mieux.
Chercher le mot.
Ça va être mieux dans la vie là maintenant.
C'est dur comme jingle, ça. Franchement, je m'attendais à
c'est
mieux.
Le principe des jingles, c'est pour,
c'est tout, vrai, mais bon.
Pour toute la honte. Alors oui, à toi. Les stars là, les Mbappé, Haaland, Messi, Cristiano qui se tirent la bourre, t'adores ça?
Moi je suis là pour ça. Moi je suis un bon client. En plus on est aux États-Unis, c'est Hollywood, c'est le popcorn, c'est les stars partout, c'est les étoiles par terre là, c'est Broadway, c'est tout ce que vous voulez. Et moi une Coupe du Monde, même si on aime bien les belles histoires aussi du Cap-Vert, de ces joueurs qui sortent un peu de nulle part, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, qui se révèlent. C'est génial, tout ça, c'est bien. Mais moi, je suis là aussi pour les stars. Moi, c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. On a fait tout ce voyage. On travaille dur pour voir Messi briller, pour voir Mbappé briller, pour voir Cristiano Ronaldo, Haaland, tout ça. Pour voir aussi des stars qui sont pas non plus au rendez-vous. On a parlé de Modric tout à l'heure, mais voilà, c'est pas, tout le monde peut pas non plus être fort à chaque fois, dans tous les matchs, tout le temps, tout le temps. Mais moi, je suis là pour ça. Et cette Coupe du Monde, elle me plaît parce qu'elle est spectaculaire, déjà. Pour toutes les raisons dont Daniel a parlé tout à l'heure aussi. Il y a une belle ambiance, il y a des stades pleins, c'est des très beaux stades. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin aussi. Mais elle marche aussi. Bah, parce que ces joueurs-là, ils nous font encore rêver qu'ils aient 39 ans ou 41 ans ou 27 ans ou qu'ils soient des jeunes joueurs qui arrivent comme un Diomandé par exemple. Moi je suis désolé, à Toronto je suis allé voir Diomandé. Avant le match j'étais très excité pour un match de la Côte d'Ivoire parce que j'allais voir Diomandé en personne et je voulais voir ce que ça donnait et sincèrement j'ai pas été déçu. Et pour moi cette Coupe du Monde là, même si je sais qu'en Europe elle est plus dure à suivre que pour nous parce qu'il faut veiller, faut pas dormir la nuit, etc., etc., au moins tu sais que quand t'es là pour la plupart des matchs tu sais que tu vas kiffer.
Est-ce que c'est un avis gogo ou est-ce que Julien est un esthète du football?
Moi aussi, je suis content de voir ces joueurs-là. Et effectivement, ne serait-ce que de voir Messi, ça m'a fait ma semaine. Je dis même pas, ça m'a fait ma journée. Je dis, c'est déjà ma semaine, elle est coffrée. Parce que ce que j'ai vu de Messi, déjà, c'est extraordinaire. Ce que j'ai vu de Mbappé aussi, comme tu dis, Haaland, je suis très content. Maintenant, je ne veux pas voir que ça. Je veux aussi voir des matchs disputés. Je veux aussi voir du suspense. Je veux aussi voir des matchs couperets, où il va y avoir une tension, une excitation. Pour l'instant, ça, je ne l'ai pas. Parce que pour l'instant, on est dans une première phase qui est interminable. Pour l'instant, on est, oui, plutôt dans le côté les stars pour un peu les footix, les gogos, parce que, ok, je te mets trois buts, mais je te les mets contre l'équipe de ton cousin. Parce qu'il n'y a pas encore de vrai choc. Il y a eu Allemagne-Côte d'Ivoire qui m'a plu. Il y a eu l'Angleterre-Croatie, mais bon, on est en train de se rendre compte que la Croatie, ça vaut plus vraiment grand-chose. Ouais. J'ai quand même envie maintenant, ça fait... Franchement, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on est arrivé maintenant.
Et France-Sénégal, quand même.
Ouais.
Maroc-Brésil.
Je pense que depuis, je ne me suis pas relevé la nuit pour m'en mettre le match, tu vois.
Non, mais...
Donc là, tu vois le Panama-Croatie, là, on est à XG 0 contre 0, là, tu vois. Donc bon, ben, voilà, à un moment... J'ai envie qu'on rentre un petit peu dans le dur. Je suis content, moi, qu'il y ait toutes ces vedettes-là. Mais si tu m'annonces, j'en sais rien, qu'en huitième, on va avoir un Argentine-Espagne, bah pardon, j'ai envie d'y être, mais vite, quoi. Allez, vite. On évite, là, toutes les équipes en bois, là. Vous êtes très gentils, on vous a kiffé. Mais rentrez à la maison et on y va, quoi. Et je le dis ça, vraiment, il faut pas... C'est sans offense. Mais j'ai envie qu'on y aille, quoi, maintenant. J'ai envie de les voir, toutes ces équipes, mais dans des gros matchs où il va y avoir du suspense, on va peut-être avoir une prolongation, on va avoir un retournement de situation. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est la Coupe du Monde des footix. La Coupe du Monde US, les pop-corns et le hot-dog. Moi, maintenant, j'ai envie d'avoir ma Coupe du Monde, de l'intensité, des gros matchs, du changement qu'on va pouvoir analyser. Là, c'est bon, là, j'ai l'impression que ça fait deux semaines que je suis là. Allez, on y va, quoi, un peu, là. Il se passe pas, c'est pas assez de violence qui se passe, quoi.
Ça fait deux semaines qu'on est là, en plus.
Non, ça fait pas deux semaines qu'on est là.
Daniel, quand il est loin de chez lui, ça lui paraît toujours plus longtemps.
Oui, c'est vrai. Non, moi personnellement, je suis plutôt d'accord avec Julien. Pour l'instant, cette Coupe du Monde, elle est vraiment cool à suivre. Il y a forcément les stars qui brillent, mais moi, contrairement à Daniel, moi, je trouve que les petites équipes, elles se comportent plutôt bien. Elles se comportent plutôt bien. On l'a vu avec des équipes comme le Cap-Vert. Même bon, là, le Ghana, c'est pas vraiment une petite équipe, hein, parce qu'ils ont vraiment joué comme une petite équipe, alors que ça, à la base, c'est quand même une grosse nation du football africain. Mais non, moi, j'ai vu des petites nations qui ont quand même tenu la dragée haute au mastodonte du football mondial, et surtout, il y a des nations émergentes, bah, comme les États-Unis, comme le Canada, qui font des belles prestations, qui sont à domicile et qui participent aussi à l'engouement, parce que comme vous le savez, quand le pays hôte a des bons résultats, c'est toujours très très bien. On le voit aujourd'hui, hein, dans les rues, il y a de plus en plus de maillots américains. Tous les bars retransmettent les matchs des États-Unis. Alors, je vais pas dire que le pays s'arrête non plus, mais en tout cas, tu sens qu'il y a un bel engouement. Au Canada, c'est pareil. Au Mexique, bon, ça c'est moins une surprise, mais non, pour l'instant, c'est une Coupe du Monde qui commence très bien. Les stars seront tout au rendez-vous de la phase éliminatoire, et ça, c'est parfait.
Messi, meilleur buteur pour l'instant, 5 buts. Mbappé, Haaland, 4 buts. Cristiano, Kane, Vinicius, 2 buts.
Oui, mais tu vois, ça, par exemple, dans une Coupe du Monde, il y a 20-30 ans, ça n'existait pas. Là, c'est bien la preuve que tu as des matchs où tu n'as pas d'adversité et que donc les mecs se régalent.
Mais j'ajoute.
Les buts, quand même.
Mais pas aussi vite autant. Pas aussi vite.
Après, c'est peut-être juste.
Moi, j'ai
grandi
avec des coups de meilleur buteur, il était à 6 buts. Quand il en mettait 8, c'était extraordinaire.
Là, j'ai l'impression aussi,
t'as grandi avec des Coupes du Monde aussi où les mecs, dès qu'ils faisaient 3 mètres, ils pouvaient se faire découper. Donc, c'était quand même.
Ok, c'était un autre football, t'as raison. Mais néanmoins, j'ai envie aussi que les buts, ils soient marqués dans des gros matchs, quoi.
Les mecs sont très
forts. J'ai pas envie de voir des démonstrations, tu vois. J'ai pas envie de voir les Harlem Globetrotters, France-Irak, honnêtement. On va pas se mentir. France-Irak, ça n'a aucun intérêt. Il faut se dire la vérité. Ça n'a aucun intérêt. Je suis très content. Moi, la frappe de Mbappé, je la trouve sublime et tout, mais ça n'a aucun intérêt. C'est bon, j'ai envie de passer
autre chose. Ça, c'était pareil dans toutes les Coupes du Monde. T'avais des matchs qui n'avaient pas d'intérêt.
Pas autant que ça. Pas autant que ça. Pas autant que ça.
Bah après, c'est vrai que à partir du moment où tu laisses se qualifier plus d'équipes, bon, forcément.
Tu te rends compte le nombre de tickets qu'ils ont filés aux équipes asiatiques et CONCACAF? Waouh, sans déconner, moi je veux bien. Enfin, oui, après Infantino, il veut régaler tous ses amis, donc bah qui régale ses amis.
Il y a eu des matchs aussi avec ces équipes-là qui étaient des très bons matchs où on a pris du plaisir à regarder. Alors il y a des matchs.
Non, mais enfin, quel très bon match on a vu avec des équipes de la CONCACAF ou enfin Curaçao, t'as vu des bons matchs? Tu vois, tu penses que tu vas avoir des bons matchs?
Non, mais bon, Mexique, c'est CONCACAF.
L'Irak, tu vas voir. Non, mais Mexique, c'est un habitué de la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'est CONCACAF.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Oui, mais
c'est
une zone. T'as déjà eu des matchs avec la Jamaïque, avec qui t'as
été parce que les trois matchs avec la Jamaïque, tu les voyais juste pour prendre des raclés.
Eh ben, c'est pareil, ça existait déjà, c'est ce que je te dis.
Ok, moi, la CONCACAF, je leur donne 3 tickets. Bah ça vaut à la valeur de la CONCACAF.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais d'accord.
Parce que là, t'as eu les pays.
L'Amérique du Sud, je donne 4+1. C'est mon 4+1, tranquille 4+1. Des biens 4+1.
Pourquoi tu donnerais plus à l'Europe? Pourquoi tu donnerais plus à l'Europe?
Non, tu réalises.
Pour que l'Italie se qualifie.
Là, on a tout ouvert. C'est moi, l'Asie, ça va, c'est pas besoin d'avoir autant de tickets.
Mais pourquoi est-ce que le football serait eurocentré?
Bien sûr, il faut que tout le monde
le foot, c'est universel.
Il a pas dit qu'il faut forcément plus d'Européens.
Je t'ai pas dit que ces tickets-là, tu les donnais à l'Europe, tu les réduis partout, je suis en train de te dire.
Mais on les a augmentés partout parce que l'Europe
alors augmente, mais 64. Pourquoi tu vas pas à 64?
Ça ira pas à 64, tu sais très bien.
Pourquoi?
Parce que
48, personne n'y croyait. Hein.
Oui, mais 48.
Rappelle-toi, moi, 48, on était dans l'after, on pensait même que ça allait être des groupes de 3 équipes et qu'il y aurait simplement le premier qui se qualifierait. Mais arrêtez, vous délirez.
Non, mais 64, c'est possible.
Sur 64, les dernières infos qu'on a, c'est que la FIFA a regardé et que pour l'instant, ils disent non. On fera pas 64.
Ouais. Oui, bah jusqu'à ce que l'oseille coule à flot.
Non, mais après 64, si c'est
y a les pas deux premiers. Arrêtez de dire que on est passé à 40. Pourquoi 48 c'est tombé du ciel et d'un coup ah non pas 64 ah ben bah non pas 64.
Non, mais je suis d'accord avec Daniel. Bien sûr qu'ils vont y aller à 64. Mais ils vont faire 32e, ils vont faire que les deux premiers qualifiés.
Bah, bien sûr.
Justement, c'est impossible. Mais il y a aucun pays, mais même sur trois pays, tu peux pas faire 64. C'est pas possible.
Mais tu donneras pourquoi? Mais je te signale que l'Inde arrête pas de dire qu'ils veulent venir à la Coupe du Monde. C'est un marché énorme. Tu crois que la FIFA va se
faire? Ils avaient même pas de diffuseur. Il y a un mois, ils n'avaient pas de diffuseur. Il y a un mois, ils n'avaient même pas de diffuseur.
Mais ils ont,
vendu leurs droits à 15 millions d'euros.
Ils ont été en Inde pour montrer du foot.
D'ailleurs, c'est un problème, parce que Julien, il a pas pu faire ses piges avec la télé indienne.
Un peu quand même. Ne vous inquiétez pas, les Indiens, on s'en est organisé. Mais...
Non, mais arrête.
Dans le cas, j'y crois pas. Là, je pense, en revanche, autant
48, je me souviens très bien quand on disait qu'on n'y croyait pas.
D'accord. 48,
ça reste une catastrophe, mais d'avoir 48 équipes, ça reste une catastrophe. Mais c'était, il y avait déjà des matchs pop-corn, dans les précédentes répétitions.
Vous m'avez fait le coup l'année dernière avec le Mondial des Clubs.
Le Mondial des Clubs, c'est catastrophique.
Ok, mais tous ceux qui ont dit, ça va être bien, on va voir des footballs différents. Ouais. Déjà, la compétition en elle-même, plus personne ne s'en souvient. Aucun match n'a marqué les esprits, rien, bidon, nul, zéro. Okay. Et tout le monde nous disait, on va voir des nouveaux footballs. Il va y avoir des oppositions de style entre les différents footballs. Il n'y a rien eu.
C'est pas vrai, Daniel, ce que tu dis. C'est pas vrai. Les équipes brésiliennes, il y avait du style, elles sont venues, elles ont très bien joué. Tu te rappelles du PSG Bayern, tu te rappelles du PSG Chelsea, tu te rappelles du PSG Real Madrid.
C'est bon.
Vrai ou faux?
Il continue après, Julien, je vous le laisse. Moi, je m'en allais.
Tu sais très bien.
S'il dit qu'il se souvient du Mondial des Clubs, tu re-signes pour
revoir. Pourquoi il
pas dit que j'en re-signe. Je t'ai dit qu'on s'en rappelle. Je t'ai dit qu'il y a des gens qui ont regardé, il y a des choses intéressantes.
Toi, tu bosses dedans, évidemment que tu te souviens de PSG Bayern, de PSG Chelsea, encore heureux. Mais sinon, on s'en souvient pas des matchs.
Est-ce qu'elle a été utile? Non, ça je suis d'accord avec toi.
Bien sûr.
Peut-être qu'elle n'était pas utile.
Donc on devait voir. Mais non, mais en plus, toi tu me cites PSG Chelsea, PSG Bayern. Mais moi je te dis que ceux qui nous le vendaient, ils disaient que ça va être fantastique parce qu'on va avoir des oppositions de style entre différents pays.
Mais t'as eu
on
Flamengo,
va voir
Philippe Louis
affronter machin. Alors qu'en fait, il y avait
Stéphane au Palmeiras. Il y avait des trucs quand même qui étaient un peu différents.
Et là, on nous vend à 48 et tout. Et qu'est-ce que tu vois des équipes qui démarrent avec et qui terminent les matchs avec 0 de XG. Ah ouais. Vous êtes venu quoi pour faire une attaque défense en fait.
Mais nous, on n'a pas défendu ça. On t'a dit que même dans la Coupe du Monde avec c'était quoi 32 équipes du coup.
Il y en avait moins. Il y avait moins de matchs. Il y avait moins de matchs.
Non, mais il y avait moins de matchs, mais il y avait aussi des matchs
en gros écart.
Il y avait aussi des gros écarts.
Une orgie de football.
Oui, mais il y avait des gros écarts déjà.
Non mais ça on est d'accord qu'il n'y a pas besoin d'avoir une orgie.
Mais
on te parle des écarts, il y a toujours eu des écarts.
C'est pas l'écart qui me gêne, c'est la répétition
de l'écart.
La répétition du match en bois, c'est ça qui me gêne.
Oui.
Évidemment qu'il y en a toujours.
Ah ouais, les équipes quand même, si on veut aller un minimum dans le sens de la FIFA,
va dans le sens de la FIFA.
Mais Curaçao,
t'as envie de manger.
Mais non, Curaçao. Après cette édition.
Curaçao, arrête, je t'en prie.
Mais laisse-moi parler, tu sais même pas ce que je vais dire.
Déjà, tu dis quoi? Déjà,
Curaçao.
Je vais partir déjà.
Curaçao.
Ton début de phrase.
Curaçao.
Il suffit.
Curaçao. C'est quand même un pays qui va se développer un petit peu, peut-être avec ce qu'ils vont ramener de la Coupe du Monde. C'est possible ou c'est pas possible?
Footballistiquement parlant, je veux dire.
Oui, footballistiquement.
Ah, ils ont beaucoup joué de la diaspora néerlandaise quand même.
Oui, mais quand même, mais ça va leur rapporter.
Et cela,
ça va leur rapporter peut-être dans les structures.
L'avenir du football à Curaçao.
Mais non, mais que tu t'emmerdes sur ça. Que tu t'emmerdes sur certains matchs, très bien.
Mais enfin, arrêtez de survendre, on dirait des promoteurs. Attends, mais
j'allais dire. Mais on n'est pas des promoteurs.
Vous voulez un chèque ou quoi?
Mais les supporters Curaçao, Cap Gardien, eh ben, eux, ils kiffent. Voilà, ils vivent leur Coupe du Monde. Eh ben, tant mieux pour eux. C'est très bien. Le football, c'est pas que l'Europe, c'est pas que les meilleurs, c'est pas que les plus riches.
T'as dit que c'était
l'Europe. Le football, c'est pour tout le monde. Voilà, monsieur.
Et donc, toi, t'es pour 48, tu trouves ça bien?
48, ouais, je trouve ça bien.
Ouais, je me casse. Merci, au revoir, il est 20h.
Allez, salut Daniel.
Dans un instant, Florent Gautreau prend la suite. Walid Acherchour également, on va parler.
Envoie-nous l'adresse.
On va parler du Sénégal, on va parler de l'Algérie, on va parler de toute l'actualité de la Coupe du Monde également, parce qu'il y a encore plein de choses à partager ensemble. Julien, tu reviens tout à l'heure?
Je suis un peu perdu en fait, je sais pas trop ce qu'on.
Je reste. Ouais. Non. C'est le coach Jimmy Brown te dit, il te met sur le banc pendant une heure.
Allez, d'accord.
Et après, il te remet en jeu.
Ça marche.
Voilà. Allez, à tout de suite dans l'after.